Le journal d'Émilie Moumentaler.
Bonsoir. Nouvelle décision judiciaire dans l'affaire du drame de Courfeyrac. Le recours du fils de la victime de ce féminicide contre une procureure et un policier a été jugé irrecevable par le tribunal fédéral. Son avocat a engagé une action en responsabilité contre l'État jurassien. La Haute École Pédagogique Béjune inaugure son premier Test Lab à Delémont. Le but est de permettre aux élèves et aux enseignants d'expérimenter des outils numériques innovants pour fabriquer des objets, comme par exemple un compas avec une imprimante 3D. Le dialogue s'apaise entre Moutiers et les communes de sa couronne. Après plusieurs mois de tensions, les autorités prévôtoises ont rencontré une délégation du conseil intercommunal du Grand Val. À la clé, un débat constructif et l'envie de... à 22 degrés en pleine, 18 à 1000 mètres. Le fils de la victime du féminicide de Courfeyrac a été désavoué par le tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu public aujourd'hui, le TF a déclaré le recours de ce proche irrecevable. Il a ainsi décidé de ne pas se prononcer sur le fond de la décision de la justice jurassienne. Cette dernière avait décidé l'an dernier de classer la plainte de la famille à l'encontre d'une procureure et d'un policier pour homicide par négligence et omission de prêter secours. La procédure ne va pas pour autant s'arrêter là, selon l'avocat de la famille, Frédéric Hénard.
Si une faute a été commise par quelqu'un, précisément parce que le recours est irrecevable, on peut chercher la responsabilité de ce quelqu'un directement dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État. Je ne vous cache pas qu'on avait déjà anticipé cette démarche, puisque nous sommes en négociation avec l'État afin qu'il reconnaisse sa responsabilité. Alors ça s'appelle une action administrative, parce que la personne qui a fait la faute, c'est pas un être humain, tout un chacun, mais c'est un organe de l'État, le ministère public, selon la famille de la victime. La législation prévoit une voie de droit particulière, qui est l'action en responsabilité. Mais elle a déjà été demandée et les autorités du gouvernement jurassien sont au courant de cette démarche.
Frédéric Hénard souligne que la famille ne cherche aucun avantage financier. Elle souhaite avant tout que la responsabilité de ce drame soit établie. L'HEP Béjune se dote d'un test lab sur son site de Delémont, un espace de découverte et d'expérimentation de divers outils numériques. Des robots, des imprimantes, laser ou 3D sont des et innovants. Concrètement, cela peut aller de la fabrication d'un compas grâce à une imprimante 3D ou encore le découpage d'une carte de la Suisse grâce à une imprimante vinyle. C'est d'ailleurs le travail qui était en cours ce matin lors de notre visite au Test Lab. Le reportage de Caroline Toussaint.
À la différence d'une imprimante qu'on a l'habitude à jet d'encre où elle passe par ligne, une découpeuse laser, elle va faire le tour vraiment des... De différents cantons, elle ne va pas passer par les imprimantes traditionnelles.
Alors Alain Berbera, je suis coordinateur des test labs et des services techniques. Donc, le but, c'est de développer les compétences numériques des élèves. Et pour ça, il y a différentes machines et différentes approches qui sont proposées. Il y a des machines qui sont très accessibles dès le plus jeune âge. Et ça nous semblait important d'avoir une proposition pour les plus jeunes. Et au fur et à mesure, il y a des machines plus complexes, voire très complexes, pour des âges plus élevés. Voilà, il y a différentes propositions également qui sont en lien avec le plan d'études roman, où les enseignants ils peuvent faire des liens avec ce plan d'études.
Voilà, c'est intéressant de commencer par les robots pédagogiques. C'est une base qu'on va retrouver sur chacun des sites. C'est vraiment intéressant pour apprendre à programmer, pour découvrir le numérique.
Oui, alors notre but, c'est justement que ce soit accessible à tout le monde et pas se retrouver qu'avec une équipe d'enseignants geeks dans ce test lab, mais vraiment que n'importe quel enseignant ou enseignante puisse venir dans ce test lab et puis que ce soit expliqué, qu'il y a un coaching, une initiation, des activités. On a un programme d'activités qui va être proposé pour intéresser les différentes personnes, mais d'une manière assez simple, et puis, mais qui a aussi la possibilité d'aller vers quelque chose de plus poussé s'il y a un intérêt.
Le test lab de Delémont sera ouvert au public le 3 octobre pour découvrir les différentes machines à disposition. D'autres espaces seront développés à la HEP de la Chaux-de-Fonds et celle de Bienne dans les deux prochaines années. Retrouvez plus de détails sur notre site rfj.ch. Les discussions se détendent entre Moutier et les communes de sa couronne. Après plusieurs mois de tensions du conseil adhérent communal du Grand Val. Au final, pas de grandes décisions, mais un dialogue renoué et un esprit constructif pour dessiner les relations intercommunales futures après le transfert de Moutier dans le canton du Jura. Porte-parole du CIGV et maire de Perfitte, Virginie Ayer se réjouit de cet apaisement.
Dans tous les cas, c'était positif de se voir en face, de pouvoir discuter véritablement autour d'une table des sujets qui nous préoccupent, de ces fameuses collaborations intercommunales sur lesquelles on devra encore réfléchir ensemble à l'avenir. Et dans ce sens-là, oui, on peut dire que le climat était bon lors de cette séance.
Il y a des intérêts communs, on va dire, entre les communes de la Couronne, entre la ville de Moutier. Il y a des choses à défendre, des choses pragmatiques, on va dire. C'est là-dessus que vous avez vraiment axé ces discussions?
Oui, on a axé notre hors du jour sur des collaborations intercommunales qui nous préoccupent dans les deux camps, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agira véritablement pour notre population, nos populations, de trouver des solutions à des sujets pratiques. On pense par exemple à l'eau de secours, au centre des déchets carnés, à l'école secondaire, etc.
L'école secondaire justement, mais aussi les pompiers et l'avenir du centre de renfort, ou CRISM. Voilà les deux sujets qui cristallisent les discussions et les craintes. Ce n'est pourtant qu'une partie de l'équation, le conseiller municipal de Moutier, Valentin Zoubert.
Il y a plusieurs types d'enjeux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement les dossiers sur lesquels on sent des divergences un peu politiques, hein, en fonction, je dirais, de l'agenda politique de certaines et certains. Voilà, vous avez parlé du CRISM, mais l'école secondaire, on sait qu'il y a aussi des divergences de vues, on sait aussi que sur ces sujets-là, il y a la population qui s'est emparée démocratiquement de ces sujets et puis qu'il y a des discussions de fond. Mais il y a aussi finalement un autre type d'enjeu peut-être beaucoup plus simple, c'est qu'actuellement il y a plein de collaborations qui fonctionnent très bien et qui devront être vues, réanalysées à l'aune du transfert de Moutier. Donc puisque Moutier changera de canton, il y aura d'autres bases légales qui entreront en vigueur. Et puis il faut savoir si et comment ces collaborations intercommunales peuvent être mises en place et peuvent être poursuivies. Et puis ça forcément, ben, c'est des grands enjeux, c'est des grandes discussions, peut-être avec moins de fonds politiques, mais pas avec moins d'enjeux.
Un sujet réalisé par Olivier Zano. Les bases légales des cantons de Berne et du Jura seront décisives pour la suite de certaines collaborations. Il s'agira donc pour les différentes parties de définir ce qui est possible de faire ou non et de trouver éventuellement d'autres solutions. Dans l'attente, Moutier et le conseil intercommunal du Grand Val vont chercher des réponses et poursuivre leurs discussions dans l'intérêt des populations concernées. Une prochaine séance doit avoir lieu en janvier. Le Conseil des États a consacré sa journée au premier examen d'une loi majeure. Elle fixe les objectifs et les moyens de produire suffisamment d'électricité indigène renouvelable pour couvrir les besoins de la population et de l'économie suisse sans recours aux énergies fossiles et sans nucléaire. Pour y parvenir, il faut investir massivement dans le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique et la biomasse. Le plan du Conseil des États à l'horizon 2050 prévoit 80 TWh par an. L'an passé, nous avons consommé 64 TWh. Il y a consensus sur l'objectif, mais il y a divergence sur le concept pour y parvenir. La production d'électricité doit-elle primer sur la protection de la nature? La Vert Genevoise, Lisa Madson.
C'est une loi qui est centrale. Elle permet de garantir l'approvisionnement en électricité. En fait, elle donne les moyens de développer. Par exemple, le solaire, on a un prix minimal de rachat. C'est déterminant pour que les installations soient enfin réalisées. Centrale, elle prévoit aussi des mesures pour les économies d'énergie. Mais malheureusement, en commission, il y a un projet qui est totalement déséquilibré, qui est sorti, qui est contraire à la Constitution, qui vraiment met à plat toutes nos règles de protection de la nature, de la biodiversité et qui menace le projet.
Parce que ce principe de faire primer les infrastructures électriques sur la protection de l'environnement apparaît comme contraire à la Constitution, une majorité de 28 sénateurs contre 14 a décidé de ne pas surseoir aux règles environnementales, malgré le plaidoyer du Valaisan du Centre, Beat Rieder.
Pour la production, on doit maintenant prépondérer les intérêts. Et l'intérêt de la production d'énergie est momentanément nettement plus important que les autres intérêts. Le Conseil aux États voit maintenant qu'on doit absolument avancer avec la production. Quand on ne fait pas ça, ça pourrait être un dommage pour l'économie suisse et pour les Suisses. Parce que maintenant, on a des prix qui augmentent, on a beaucoup de problèmes sur les marchés, on a beaucoup de problèmes dans l'économie. Alors, On doit montrer qu'on est prêt de faire des projets très grands et très vite.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Serge Hubin. La loi sur l'approvisionnement en électricité est encore loin d'être aboutie. Elle passera au Conseil national lors d'une prochaine session. Puis les deux chambres devront trouver les compromis susceptibles à la fois de décupler la production d'électricité sans mépriser la protection de la nature. Le ministre russe des Affaires étrangères a demandé à la Suisse de revenir à sa politique de neutralité. Sergueï Lavrov a rencontré le président de la Confédération, Ignacio Cassis, aujourd'hui à New York. De son côté, le Conseil fédéral a demandé aux Russes de renoncer au soi-disant référendum dans les territoires occupés de l'Ukraine. Il a exprimé sa profonde inquiétude face à la menace du recours aux armes nucléaires. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Iran. Au moins 31 civils ont été tués depuis 6 jours et le début des manifestations réprimées par les forces de sécurité. Les manifestants protestent contre la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Le décès de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, a suscité de vives condamnations dans le monde. Selon des militants, elle a reçu un coup mortel à la tête, mais les responsables iraniens ont démenti et annoncé une enquête. Ce matin, les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à Instagram et à WhatsApp.
RFJ, il est 18h12.
Sport. Roger Federer disputera bien le dernier match de tennis de sa carrière demain à Londres dans le cadre de la Lever Cup. Il fera comme prévu équipe avec son ex-grand rival Rafael Nadal. Le Balois et l'Espagnol, qui cumulent 42 titres en Grand Chelem en simple, se mesureront en double aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Cette partie devrait débuter vers 22h, heure suisse. Un espoir du cyclisme jurassien va défier la crème mondiale. Arnaud Tendon va disputer demain la course en ligne des moins de 23 ans au championnat du monde de cyclisme en Australie. Une première pour le Vadet de 20 ans à ce niveau-là. Arnaud Tendon s'attend à découvrir un niveau très élevé, difficilement comparable avec ce qu'il a connu jusqu'à présent. Il aborde ses joutes avec envie.
Déjà content d'être sélectionné, c'est mes premiers championnats du monde. J'ai déjà participé plusieurs fois au championnat d'Europe, mais jamais au championnat du monde. L'année où j'aurais pu participer, il y a eu le Covid, du coup, c'était une déception parce que je ne pouvais pas le faire. Je vais l'aborder avec un peu de pression parce que c'est une grande course, c'est la première fois que je vais y participer puis bien faire. Il y aura beaucoup de coureurs déjà professionnels qui sont au départ. C'est tous les meilleurs U23 du monde qui sont là. Nos adversaires, ce sera des gars qui gagnent déjà chez les pros, du coup, ils ont l'habitude de courir contre les pros puis ils redescendent d'une catégorie, du coup, c'est un peu plus compliqué.
Arnaud Tendon qui tentera de jouer sa carte en cas d'arrivée groupée sur ce parcours en boucle de 170 km. La course en ligne des moins de 23 ans a lieu demain à 13h en Australie, soit 5h du matin, heure suisse. Merci pour votre écoute et belle soirée.